Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, s'il y a bien un sujet de conversation sur lequel chacun a son mot à dire, c'est bien la météo. Au-delà du simple échange de politesse avec le voisin, parler du beau temps traduit un réel intérêt de notre part. Il faut dire que nous en sommes très dépendants. Trop de précipitations et les récoltes pourrissent, les vacances sont annulées, la cave est menacée d'inondation. Des températures, au contraire, trop élevées et c'est l'appauvrissement des nappes phréatiques, des pics de pollution ou encore enfants et personnes âgées sujets à la déshydratation. Cette météo que l'on voit se dérégler, car n'a-t-on pas l'habitude de dire qu'il n'y a plus de saison, que rien ne va plus ? Cette météo donc que l'on voit se dérégler, nous en sommes à la fois spectateurs et acteurs. Quelques chiffres sur lesquels nous allons pouvoir revenir au cours de l'émission. Chaque année, la température devrait augmenter de 0,7 degrés par an. La glace arctique se réduit, on l'estime, à 2 à 3% tous les 10 ans et une augmentation du niveau de la mer qui est estimée à 3 mm par an. Alors il faudra attendre la fin des années 80 pour que des scientifiques se penchent réellement sur la question du dérèglement climatique avec le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce groupe, vous en avez entendu parler, car il s'est réuni à Paris en janvier 2007. Il a pour objectif d'évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, les informations d'ordre scientifique, mais aussi technique et socio-économique sur le climat. Alors, trois groupes de travail vont se réunir au cours de l'année. Et ce premier groupe, qui a rendu son rapport début février 2007, a apporté des clés sur les causes humaines et naturelles des changements climatiques. Pour en parler en détail avec nous de ces résultats, faire le point sur les idées reçues et savoir à quoi s'attendre pour les 50-100 prochaines années, Michel Petit est avec nous en studio. Michel Petit, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ancien directeur de centre de recherche de l'école polytechnique, président de la Société météorologique de France depuis 2001, spécialiste de l'effet de serre, expert auprès du GIEC, où vous avez mené de front un groupe sur les incertitudes scientifiques et les risques climatiques sur le plan international. Mais vous avez également eu une part très active sur le plan national. Vous pourrez peut-être nous en dire deux mots entre la différence sur le plan international et national. L'année auparavant, lors du rassemblement en 2003, pareil, vous avez eu un rôle important au sein du GIEC. Avec vous, donc, nous allons pouvoir parler en détail de ces changements climatiques récents que l'on constate actuellement, des projections pour le futur, des effets à long terme, et puis également des causes humaines et causes naturelles des changements du climat. Alors, avant de venir à ces chiffres qui nous font peur, et peut-être de revoir un peu ces idées reçues, Michel Petit, qu'est-ce qui vous a motivé dans l'idée de participer au GIEC ? Comment, en fait, on entre dans ce groupe d'experts ?
Alors, moi, j'y suis entré à une époque de ma carrière où j'étais directeur de la recherche au ministère de l'Environnement. Et à cette époque-là, c'était le début de la préparation du deuxième rapport d'évaluation du GIEC. Et la France a souhaité avoir quelqu'un qui ait une certaine stature scientifique comme membre représentant la France dans le bureau de cette organisme qui amorçait donc son deuxième rapport après que le premier ait donné lieu à la préparation de la convention de Rio sur le climat, puisque ce rapport était sorti en 90 et c'était sur ces bases que cette convention a été signée à Rio de Janeiro en 1992.
Alors, depuis le début, en fait, vous avez un rôle important au sein du GIEC, et sur le plan national et sur le plan international. En préparant cette émission, vous m'aviez indiqué qu'il y avait quand même une différence. Alors, quelles sont ces fameuses différences?
Oui, j'ai été donc de 1992 à 2002 le représentant de la France dans le bureau du GIEC, et donc en tant que membre du bureau du GIEC, j'ai participé à la coordination de la préparation du rapport international, du deuxième rapport d'évaluation. Et puis, pour le troisième rapport d'évaluation, qui a démarré effectivement aux alentours de 2002, j'avais cédé ma place à Jean Jouzel, qui est le représentant français dans le bureau du GIEC. Et moi, je me suis tourné à ce moment-là vers un rôle d'expert qui consistait à essayer de donner des consignes à l'ensemble des auteurs écrivant les trois rapports sur la manière de traiter les incertitudes scientifiques en liaison avec la gestion du risque climatique.
Alors, pour démarrer notre émission sur ce premier bilan du GIEC, vous qui avez eu donc une participation active, vous allez pouvoir nous donner quelques chiffres. Mais tout d'abord, est-ce que l'on peut maintenant établir un pourcentage imputable à la main de l'homme concernant ce fameux réchauffement climatique ?
Oh, un pourcentage, je ne sais pas, mais ce qu'on peut dire, c'est que à coup sûr, quasi à coup sûr, le réchauffement climatique que nous observons est lié pour l'essentiel aux activités humaines. On observe une certaine augmentation de la température, alors de la température moyenne mondiale, de la température moyenne des terres émergées, de la température moyenne de l'océan, de la température à l'intérieur de chacun des continents. Et si on fait des modélisations dans lesquelles on tient compte de l'effet des gaz à effet de serre émis par les activités humaines, on arrive à avoir un accord tout à fait satisfaisant entre les observations et les modélisations. Alors que si on ne tient pas compte des activités humaines, si on ne tient compte que des causes naturelles de variation du climat, on a un désaccord flagrant avec des augmentations extrêmement faibles, très inférieures à celles qui sont effectivement observées.
Alors, pour parler d'observation, il faut avoir des valeurs de référence. Or, on mesure les températures depuis très peu de temps, finalement.
Comment depuis très peu de temps,
on les mesure ? Eh bien, depuis 1850, peut-être.
Oui, ben, ça suffit déjà largement.
Suffit pour faire une projection à long terme ?
Ah non, il ne s'agit pas du tout de faire des projections à long terme. On est en train de parler de l'observation de la variation du climat entre 1850 et maintenant. Entre 1850 et maintenant, on a eu une augmentation moyenne de la température mondiale qui est de presque 1 degré, de 0,8 degré. Et c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on observe effectivement. Alors, il est vrai que plus on remonte dans le passé et moins on a des valeurs qui soient précises, mais depuis, disons, 50 ans, on a des mesures extrêmement fiables, on sait bien mesurer les températures, on connaît tous les pièges, et plus ça va, plus on voit une accélération de l'augmentation de la température moyenne.
Quels sont les grands responsables ? C'est le fameux CO2, dioxyde de carbone, le méthane, quels sont les
alors,
fameux
oui,
éléments ?
Alors oui, le dioxyde de carbone, le CO2, le gaz carbonique, comme on disait jadis, est responsable pour les deux tiers environ du réchauffement climatique que nous observons.
Donc ce sont les usines, comment ça se traduit ?
Non, les productions de gaz carbonique, c'est très en gros un tiers l'industrie, un tiers les bâtiments, le chauffage, l'éclairage, les appareils ménagers divers, les climatisations, et un tiers les besoins de transport multiples et variés, qui ne font d'ailleurs que se développer de plus en plus rapidement. Mais l'essentiel du carbone vient de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Et si on regarde, on connaît bien sûr les statistiques de ce qu'on extrait du sous-sol chaque année. Donc on peut calculer quelle serait l'augmentation de la concentration du CO2 dans l'atmosphère si la totalité du CO2 qu'on produit en brûlant les combustibles fossiles se retrouvait dans l'atmosphère. Et si la totalité s'y retrouvait, on devrait avoir une augmentation supérieure d'un facteur 2 à ce qu'on observe. Ceci est lié au fait que la moitié de ce qu'on brûle, heureusement, est absorbée par l'océan et la biosphère. On n'en retrouve donc que la moitié dans l'atmosphère, mais ceci montre bien que cette augmentation absolument indubitable de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle est liée essentiellement aux activités humaines. D'ailleurs, il y a d'autres arguments qui corroborent cette idée. D'une part, quand on mesure finement la quantité d'oxygène dans l'atmosphère, eh bien, on trouve que, effectivement, dans l'atmosphère, il manque l'oxygène qui a servi à fabriquer les éoliennes en question. Et puis, si on fait des mesures isotopiques du carbone, eh bien, on a encore là des indications qu'effectivement, ce carbone est bien un carbone d'origine fossile. Donc, le fait qu'il y ait un changement de la composition de l'atmosphère par suite de l'utilisation des combustibles fossiles est un fait qui est parfaitement établi et qui est absolument indubitable, que d'ailleurs personne au monde ne met en doute.
Autre gaz est aussi important et qui joue un rôle sur le réchauffement climatique, c'est le méthane.
Alors le méthane est effectivement un autre gaz à effet de serre et le méthane, lui, il a différentes sources.
C'est l'élevage intensif ?
Alors oui, il y a sans doute aussi une origine énergétique comme la précédente, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des fuites de gaz naturel, ces fuites de gaz naturel, c'est du méthane qui se libère. Et en dehors de ça, dans la nature, à chaque fois qu'il y a une fermentation en l'absence d'air, ce qu'on appelle une fermentation anaérobie, eh bien, on a la production de méthane. Ceci se produit dans l'appareil digestif des ruminants, ceci se produit dans les rizières, et donc un certain nombre d'activités de caractère agricole émettent essentiellement le méthane que nous connaissons dans la nature. Et enfin, il y a le protoxyde d'azote, N2O, qui lui est plutôt produit par les activités agricoles.
Alors, un terme qui revient dans le rapport que l'on peut lire et que l'on trouve sur le site internet de l'IPCC, sur lequel d'ailleurs je suis allée chercher les fameuses informations, on parle de forçage radiatif. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le forçage radiatif ? C'est les rayons du soleil qui sont piégés ?
Oui, non, c'est effectivement les rayons du soleil qui sont à l'origine de tout ça. Si on considère une planète, c'est un corps isolé dans l'espace, qui n'échange de l'énergie avec le monde extérieur que par rayonnement. Elle reçoit le rayonnement du soleil, la planète, et elle absorbe une partie de ce rayonnement, une partie est réfléchie dans l'espace, c'est ce qu'on appelle l'albédo, et puis une partie est absorbée par la planète. Bon, donc la température, tant qu'elle reçoit de l'énergie, a tendance à augmenter jusqu'à ce que la planète soit elle-même capable de se débarrasser d'une quantité d'énergie qui soit strictement égale à celle qu'elle absorbe en provenance du Soleil. Et compte tenu de la température de cette planète, elle émet dans l'infrarouge. Si vous prenez par exemple un barbecue, que vous soufflez énergiquement sur les braises, vous avez des braises bien lumineuses, bien claires. Si vous approchez votre main, ça chauffe. Puis si vous arrêtez de souffler, ça se refroidit petit à petit. Les charbons deviennent rougeoyants, ils restent parfaitement chauds. Puis même à un moment donné, ça s'éteint complètement. Mais cependant, ça continue à être très chaud. Si vous approchez votre main, il fait très chaud. Et même si vous mettez un bistec sur le barbecue, il est parfaitement capable de cuire, à condition de bien le retourner, de façon à ce qu'il reçoive effectivement le rayonnement émis par le charbon qui cependant paraît noir. C'est ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge parce qu'il n'est pas visible à l'œil humain, mais fondamentalement c'est un rayonnement qui est de même nature que le rayonnement lumineux qu'on voyait au début quand on avait bien activé le charbon de notre barbecue. Alors maintenant, pour revenir donc à la Terre, elle est évidemment pas brillante, mais elle émet de l'énergie infrarouge, qu'on ne voit pas, mais qui néanmoins existe. Et cette énergie infrarouge est partiellement absorbée par des gaz dits à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère. Et si, à partir d'un état d'équilibre donné, vous ajoutez ce que nous faisons, des gaz supplémentaires absorbant l'infrarouge dans l'atmosphère, eh bien, une partie du rayonnement qui s'échappait dans l'espace cesse de pouvoir le faire, et par conséquent, momentanément, la Terre reçoit plus d'énergie qu'elle n'en renvoie, donc sa température augmente jusqu'à ce que on retrouve un nouvel état d'équilibre, mais correspondant à une température plus forte que celle qu'on avait avant. Et c'est ça qui est l'argument fondamental en faveur de l'effet de serre. C'est la physique de base du phénomène. Alors, quelle preuve a-t-on que c'est vrai? Ben, tout d'abord, on peut comparer avec les planètes voisines. C'est-à-dire que Vénus, la planète voisine, qui comprend beaucoup plus de
qui
gaz carbonique,
aussi, alors.
Qui ont bien sûr une atmosphère, et l'atmosphère de Vénus contient essentiellement des gaz carboniques, et il en contient donc beaucoup plus que l'atmosphère de la Terre, et la température de Vénus est de plusieurs de centaines de degrés plus chaude que celle de la Terre. Mars, au contraire, qui a très peu de CO2 dans son atmosphère, à une température qui est une centaine de degrés plus froide que la Terre. D'autre part, quand on fait les calculs, on s'aperçoit que si la Terre n'avait pas eu du tout de CO2 dans son atmosphère, or elle en avait naturellement, elle aurait une température qui est une trentaine de degrés inférieure à celle que nous connaissons, et par conséquent, jamais la vie ne se serait développée dans les conditions que nous connaissons. Donc l'effet de serre en soi n'a rien d'anormal,
oui.
N'a rien de nocif, même,
au contraire,
même très
nécessaire.
Tout à fait bénéfique pour nous, mais néanmoins, si par notre action nous changeons la composition de notre atmosphère, eh bien par là même, nous changeons notre climat, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce phénomène, l'influence de l'atmosphère sur la température de la Terre, avait été décrite par Joseph Fourier dans les années 1820, et puis en 1896, Van Terrenius avait dit que le fait qu'on commence à brûler le charbon allait se traduire par un changement de la composition de l'atmosphère et par un réchauffement. Et il avait dit que, effectivement, on finirait par doubler la concentration dans l'atmosphère et qu'il en résulterait une augmentation de quelques degrés de la température moyenne du globe. Comme il était suédois et qu'il n'avait pas chaud l'hiver, il trouvait que c'était plutôt une bonne chose et il n'avait pas manifestement mesuré toutes les conséquences que ça aurait pour l'ensemble de la planète, mais le phénomène physique, il l'avait parfaitement décrit, et cela, je le répète, en 1896. Donc, s'il y a des gens qui s'étonnent de voir le climat se réchauffer, moi, ce qui me rendrait dans une perplexité totale, c'est si, effectivement, il ne se réchauffait pas.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause, Michel Petit, et on se retrouve tout de suite après pour parler des effets sur notre planète Terre. À tout de suite.
Rencontrez Yann Arthus Bertrand de l'Académie des Beaux-Arts quelques jours avant son installation sous la coupole, le 15 octobre 2008. Il évoque son parcours, les projets de son association Good Planet au service de la défense de l'environnement et l'Académie des Beaux-Arts qui l'accueille. Portrait de Yann Arthus Bertrand de l'Académie des Beaux-Arts, une émission en habit vert à télécharger librement sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Michel Petit, expert au sein du GIEC. Michel Petit, pendant la pause, nous revenions sur ce groupe expérimental. Il y a quand même une information que moi je n'avais pas et qui me semble importante, c'est que ces experts sont bénévoles.
Ah, ces experts sont bénévoles, ce sont des gens qui dont le travail normal est de faire de la recherche quelque part, dans un centre de recherche, dans une université. Et ils acceptent de consacrer une partie importante de leur temps à l'examen de la littérature, puis à la rédaction des rapports de synthèse du GIEC sur l'état des connaissances sur le réchauffement climatique. Alors, pourquoi le font-ils ? Bien, probablement un peu par sentiment de devoir, et également parce que c'est pour eux une bonne occasion de faire le point de l'état des connaissances sur un sujet donné. Et disons, lorsqu'on fait ça, on est toujours mieux armé pour après définir ses propres programmes de recherche, lorsqu'on sait exactement quel est l'état global des connaissances, la pertinence de ce qu'on fait devient mieux établie.
Nous allons pouvoir aborder les termes plus techniques concernant ce réchauffement du climat, et donc le premier groupe, puisqu'il y a trois groupes, c'est ça, au sein du GIEC. Ce premier groupe, donc, qui s'est réuni en janvier 2007, a rendu son rapport, et donc auquel vous avez participé. Alors, vous le disiez lors de cette première partie, on estime que tous les ans, on gagne 0,07, 0,8 degrés par an, c'est ça ?
Je disais qu'en gros, on avait gagné 0,8 degrés depuis l'ère pré-industrielle, en gros.
Alors c'est beaucoup, on ne se rend pas compte, pour nous c'est 0, quelque chose.
Oui, ça fait pratiquement 1 degré. Pour l'instant, c'est pas catastrophique, c'est pas énorme. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est ce qui nous attend à l'avenir. En ce sens que nous émettons de plus en plus de gaz à effet de serre parce que nous consommons de plus en plus d'énergie, à cause de l'augmentation de la population mondiale et à cause du développement d'un certain nombre de pays, dont on ne peut demeurant que se réjouir de voir le nombre augmenter.
Vous faites référence à la Chine, par exemple, qui utilise le charbon, le pétrole, l'Inde.
Oui, tout à fait, qui sont effectivement, qui représentent à eux deux 2,3 milliards d'habitants, c'est-à-dire à plus d'un tiers de la population mondiale. Et on voit bien qu'à l'avenir, la contribution, par exemple à partir de 2030, de ces pays-là va devenir supérieure à celle des pays de l'OCDE actuel.
On estime donc une température qui augmente d'un degré, en gros, si
Alors,
on grossit
si
les choses
voulez,
par
il
an.
Il est très difficile, si on veut se projeter à l'avenir, et c'est bien ce à quoi vous nous invitez, si j'ai bien compris, la première difficulté majeure, c'est que personne ne sait quelles seront les émissions de l'humanité dans 10, 20, 30, 40, 80 ans.
Et on sait de toute façon que dans les années 2050-2060, on va avoir une crise du pétrole. Donc, il va y avoir une baisse obligatoire de ces gaz à effet de serre par le biais du pétrole.
Oui et non. Il est vrai que très probablement, les réserves de pétrole et de gaz, ou les ressources de pétrole et de gaz
naturel,
vont effectivement, le gaz naturel, vont s'épuiser. Mais malheureusement pour le climat, nous possédons dans le sous-sol de la Terre encore beaucoup de charbon. Et si nous utilisons la totalité du charbon dont nous disposons, on me dirait que faire marcher une automobile avec du charbon, c'est pas extrêmement facile, mais on sait parfaitement fabriquer du pétrole à partir du charbon. Les Allemands l'ont fait pendant la dernière guerre mondiale, lorsqu'il y avait un blocus les empêchant de se procurer du pétrole, et les Sud-Africains l'ont fait au moment de l'apartheid et du blocus qui leur était imposé à cette époque. Et par conséquent, c'est tout à fait possible. Donc malheureusement, pour le climat, nous disposons dans le sous-sol encore de quoi émettre beaucoup de gaz à effet de serre, suffisamment pour bouleverser complètement le climat de la planète. Alors tout à l'heure, vous évoquiez le 1 degré. 1 degré, c'est effectivement relativement modeste, mais par contre, si on regarde ce qui peut se produire, par exemple d'ici à 2100, on obtient, suivant les hypothèses qu'on fait sur les émissions de l'humanité, quelque chose qui, à la louche, est compris entre 1 et 6 degrés. Et il faut savoir que, pour fixer un ordre de grandeur, que 5 degrés, c'est la température qui sépare une ère glaciaire d'un optimum interglaciaire tel que celui que nous vivons.
Puisque effectivement, il y a 125 000 ans apparemment.
Alors il y a effectivement au cours du dernier million d'années, en gros, il y a eu l'apparition d'un cycle climatique d'en gros 100 000 ans, dans lequel on passe effectivement successivement de périodes glacées où tout le nord de l'Europe a été recouvert de plusieurs kilomètres de glace
au
monde tel que nous le connaissons au jour d'aujourd'hui.
Avec plus de 5 degrés.
Et la différence est 5 degrés seulement. Et ceci, évidemment, est quelque chose qui se produit très lentement, très progressivement. Hein. On a mentionné une périodicité de l'ordre de 100 000 ans, ça fixe quelques ordres de grandeur. Là, c'est en 100 ans qu'on risque d'avoir une augmentation de température à peu près du même ordre si nous continuons à dégager de plus en plus de gaz à effet de serre.
Alors, de cette augmentation de température, les conséquences, c'est plus de précipitations puisqu'il y a une augmentation de la vapeur d'eau.
Alors, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Alors, d'une part, je voudrais quand même, vous aviez évoqué tout à l'heure les incertitudes. Alors, je vous ai répondu en vous disant que la première incertitude était l'incertitude sur ce que seraient les émissions de l'humanité. Maintenant, nos modèles climatiques ne sont pas non plus parfaits. Et il faut savoir que si, par exemple, on fait le calcul de ce que serait l'augmentation de la température du globe pour un doublement de la concentration du CO2 dans l'atmosphère, eh bien les modèles sont incertains à un facteur 3 près sur l'amplitude du réchauffement qu'on observe. Et par conséquent, il faut être également conscient que les modèles, même si on connaissait parfaitement l'évolution de la concentration du CO2 dans l'atmosphère ne pourrait pas nous fournir des chiffres avec une très grande précision. Ça n'est pas pour cela que le phénomène global de réchauffement n'existe pas, même si on ne peut pas le chiffrer à mieux qu'un facteur 3, et c'est pas la première fois que lorsqu'on a à faire face à des décisions à long terme, on n'a pas toutes les connaissances sur le long terme. Et ce qu'on a l'habitude de faire dans ces cas-là, c'est plutôt de se placer dans le cas le plus pessimiste, plutôt que de se placer dans le cas le plus optimiste. C'est bien ce que font les ingénieurs qui construisent des ponts, ils prennent les vents extrêmes et non pas, même pas les vents moyens.
Et en cela, vous répondez peut-être aux détracteurs du GIEC, qui justement pourraient vous reprocher d'avoir un discours trop alarmiste.
On n'a pas de discours alarmiste, nous, le GIEC n'a pas de discours du tout, le GIEC
il fait
dit...
un constat.
Le GIEC dit, on regarde quelles pourraient être les émissions de l'humanité compte tenu de développements vraisemblables. Voilà, ça nous amène à tant de concentration. On fait tourner nos modèles qui nous donnent un résultat. Et globalement, quand on additionne les barres d'erreur liées au modèle et les barres d'erreur liées à l'incertitude sur l'amplitude des émissions, c'est comme ça qu'on arrive à cette fourchette de 1 à 6 que j'ai mentionné tout à l'heure.
Alors, revenons à ma petite question d'avant, qui était, la température augmente, donc c'est une augmentation de la vapeur d'eau, de ce fait, une augmentation des précipitations.
Alors, oui, c'est parfaitement exact. Avant d'aborder ça, je voudrais mentionner qu'on a parlé de température moyenne, mais qu'il faut bien être conscient que l'augmentation de température n'est pas uniforme.
Oui, effectivement.
En particulier, les océans se réchauffent moins que les continents, et par conséquent les continents où habitent les hommes, vont se réchauffer plus que la valeur moyenne que j'évoquais tout à l'heure, d'un ordre de grandeur qui peut être à peu près 2, voire dans les régions les plus septentrionales, au nord de la Sibérie, au nord de l'Europe, au nord de l'Amérique, on peut avoir des augmentations qui soient 3 fois les valeurs moyennes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Autrement dit, les malheureux Inuits devront s'habituer à vivre d'une façon totalement différente de celle qui est leur manière de vivre traditionnelle. On est en train de détruire complètement cette civilisation et ça à coût malheureusement à peu près certain.
Alors avant peut-être d'aborder effectivement la répartition, hein, puisqu'effectivement, c'est ce que vous disiez, on va avoir des zones où il va vraiment faire vraiment de plus en plus chaud, avec des zones aussi avec de fortes précipitations.
Et alors, c'est ça, on a évoqué tout à l'heure, vous aviez commencé à évoquer les précipitations, et effectivement, il y a un changement des précipitations, il y a probablement pour la raison que vous disiez, c'est-à-dire une évaporation plus grande, il y aura davantage globalement de précipitations.
Donc ce sera la forêt amazonienne en France ?
Non, et en plus, elles vont se traduire par de façon plus brutale, il y aura davantage de précipitations très intenses.
Des moussons, en fait.
Non, ça ne durera pas forcément aussi longtemps qu'une mousson. Mais ça peut être des événements pluvieux extrêmement intenses, donc pouvant provoquer des inondations locales. Mais par contre, alors que le réchauffement est un réchauffement qui se produit partout sur la planète, les précipitations à certains endroits de la planète vont au contraire diminuer par rapport à ce qu'elles sont actuellement.
Et malheureusement,
globalement, ce sont déjà plutôt les régions qui sont les plus sèches qui vont s'assécher. Autrement dit, on peut peut-être représenter le phénomène comme une exacerbation des tendances actuelles du climat, c'est-à-dire que là où il pleut beaucoup, il va pleuvoir encore davantage, et là où il pleut pas beaucoup, il va encore moins pleuvoir. C'est une description évidemment un peu schématique,
oui.
Et il faut se reporter aux modèles et aux cartes de précipitations qui ont pu être tracées, mais grossièrement, pour décrire le phénomène en termes généraux, c'est de ça qu'il s'agit, et en particulier, tout le pourtour méditerranéen, tous les modèles sont d'accord là-dessus, devrait s'assécher et par conséquent être soumis à des pressions, un stress hydrique qui est déjà tout à fait substantiel, mais qui ne va faire que croître et embellir.
Autre élément, ce sont les océans. Pareil, la température des océans augmente.
La température des océans augmente, elle augmente sur une profondeur de plus en plus importante.
3000 mètres, c'est incroyable.
Oui, mais pas beaucoup encore, mais ça va se réchauffer de plus en plus sur cette gamme, sur ces couches superficielles. Pour l'instant, le réchauffement, il est essentiellement dans la couche superficielle, mais cette couche superficielle va s'épaissir de plus en plus, si je puis dire, et par conséquent, il va y avoir une dilatation de l'eau de mer, puisque l'eau de mer, comme tous les corps, se dilate, et il va y avoir une dilatation qui va se traduire par une montée de l'augmentation du niveau des océans. Ça, c'est la première cause d'augmentation des océans, et puis il y a une deuxième cause qui est la fonte de toutes les glaces de terre qui, au lieu d'être de la glace restant sur la terre, va être de l'eau liquide qui va s'écouler dans les océans.
Et voilà, là vous précisez glace de terre, puisqu'effectivement, les icebergs qui pourraient fondre, pour le coup, c'est comme un glaçon dans un verre d'eau. Le niveau n'augmente pas. Le niveau
absolument. Absolument. C'est le principe d'Archimède. La partie qui est immergée correspond à un volume d'eau dont le poids est égal au poids du glaçon. Par conséquent, lorsque le glaçon fond, on le retrouve exactement dans la partie immergée, mais... Ça ne change rien sur le niveau moyen de la mer, vous avez tout à fait raison.
Alors, je suppose que ça doit jouer aussi sur la salinité de l'océan, puisqu'on va retrouver une...
Bien sûr, d'eau. Ça joue également sur la salinité de l'océan.
Donc un écosystème modifié. Puisque
cette eau supplémentaire qui vient là va se répandre dans l'océan, et on peut redouter le fait que les eaux soient plus chaudes et soient moins salées. De ce fait, elles sont moins denses, donc elles vont avoir moins tendance en mer du Nord à s'enfoncer. Et par conséquent, un des moteurs essentiels de la circulation océanique mondiale, ce qu'on appelle le grand tapis roulant, risque effectivement de s'arrêter. Et il est possible qu'à l'avenir, on ait un arrêt de ce grand tapis roulant, avec des conséquences sur des courants comme le Gulf Stream, on en a beaucoup parlé. Alors ça ne va pas se produire comme dans le film Le jour d'après en 24 heures. C'est un phénomène qui de toute façon serait extrêmement progressif. Cependant quand même, l'ampleur du Gulf Stream pourrait diminuer de quelques 25% au cours du siècle à venir, sans que ça ait nécessairement des conséquences dramatiques sur l'ensemble du climat, sauf peut-être en quelques points locaux très très bien localisés. Donc l'idée qu'on ait une glaciation totale, là encore, c'est de la fiction pure.
Autre élément qui pourra jouer aussi, c'est les cyclones. Les cyclones qui vont être de plus en plus importants.
Alors, effectivement, la question des cyclones est tout à fait un sujet de préoccupation. Le nombre même des cyclones ne semble pas augmenter d'après les observations, et les modèles ne prévoient pas non plus une augmentation du nombre des cyclones.
Ah, mon information
par contre,
est fausse alors.
Non, attendez, peut-être pas. Par contre, l'intensité moyenne de ces cyclones vraisemblablement va augmenter, et il est assez difficile de mesurer l'énergie d'un cyclone, mais on a bien l'impression quand même que, à des incertitudes de mesure près, on a observé effectivement une certaine intensification des cyclones. Donc il y a non pas une augmentation du nombre des cyclones, mais une augmentation de leur intensité moyenne, ce qui, pour les populations qui sont soumises, est une source de préoccupation tout à fait réelle.
Et toujours dans la même zone, ou justement un déplacement de ces cyclones vers des zones dans lesquelles on n'était pas habitué à les voir.
Alors, qu'il y ait un déplacement de la trajectoire préférentielle des cyclones, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à prévoir, mais c'est une éventualité qu'on ne saurait balayer d'un revers de main. Et quand on n'est pas habitué à avoir des cyclones dans une région donnée, si jamais le cyclone y arrive, les conséquences seront absolument dramatiques. Et c'est un des dangers qu'on peut avoir. Tous nos aménagements sont fondés sur l'histoire d'un certain nombre de catastrophes qu'on a. On parle de crues décennales, de crues centennales. Si la crue centennale se met à devenir un jour une crue décennale parce qu'il y a davantage de précipitations violentes, toutes nos statistiques deviennent fausses, et donc tous nos projets d'aménagement du territoire doivent être repensés en disant « oui, mais s'il y a changement climatique, est-ce que les statistiques des catastrophes naturelles ne vont pas changer à l'avenir ? » Des catastrophes d'origine météorologique, bien sûr. Il ne s'agit pas des tremblements de terre ou des tsunamis.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Michel Petit, et on se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission. À tout de suite.
La bibliopholie, c'est l'amour fou des livres de bibliophilie. écoutez notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavini. Il n'hésite pas à créer quelques néologismes pour faire partager sa passion. Bibliopholies, chronique d'un bibliophile, une émission au fil des pages à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Michel Petit, correspondant à l'Académie des sciences et également expert au sein du GIEC. Avec vous, dans cette troisième partie d'émission, Michel Petit, nous allons pouvoir parler des différents scénarios qui sont proposés par le GIEC, les scénarios d'émission du rapport spécial sur les scénarios d'émission, le SRES. Est-ce que vous pourriez nous en dire tout d'abord quelques mots pour présenter ce rapport ?
Alors, ce rapport est déjà un rapport qui est un petit peu ancien et l'un des travaux que le GIEC envisage de faire lorsqu'il aura terminé son quatrième rapport d'évaluation, c'est peut-être de se relancer dans une nouvelle analyse des scénarios qui tiennent compte des publications qui ont été faites jusqu'à maintenant. Alors, il est essentiel, si on veut essayer d'estimer quels sont les changements climatiques qui nous attendent, d'avoir une estimation de ce que pourront être les émissions de l'humanité. Et pour ça, on est obligé de faire des hypothèses sur l'augmentation démographique de la population, sur la rapidité de développement des différents pays, sur la façon dont ces 10 pays vont se développer, sur les technologies qui vont devenir disponibles pour économiser, pour produire l'énergie autrement. Et ce rapport spécial avait essayé de paver l'ensemble du possible par un certain nombre de scénarios qui, en très grand nombre d'ailleurs, si on prend un, mais on a choisi quelques scénarios types en disant, pour pouvoir comparer les résultats des différentes simulations, bien voilà, nous choisissons un certain nombre de scénarios de référence sur lesquels on va tous se mettre d'accord pour faire des calculs correspondant à ces scénarios-là. Dans ces scénarios sont, comme je disais, simplement des scénarios possibles. Personne ne peut raisonnablement assigner une probabilité à tel scénario plutôt qu'à tel autre.
Alors effectivement, moi je parlais de 4 scénarios. Vous me disiez qu'il y en avait beaucoup plus.
Il y en a beaucoup plus. En général, on parle souvent dans le rapport de deuxième présentation, on parlait de 6 scénarios. On peut choisir ce qu'on veut comme scénario représentatif. On peut être plus ou moins fin dans la description du possible. Mais déjà avec 4, on arrive à décrire un peu l'ensemble du possible, c'est vrai.
Alors l'un des premiers propose qu'il y ait 50% d'énergie fossile utilisée et 50 autres d'autres énergies et une population mondiale qui atteint son maximum et qui commence à décliner ensuite. C'est-à-dire qu'on arrive à un maximum, alors je ne sais pas à quelle date parce que ce n'est pas précisé, mais on arrive à un seuil et puis seulement après...
Alors ça, c'est les scénarios du type A ou quelque chose comme
exactement,
ça.
Exactement, A1.
Mais il y a plusieurs scénarios du type A. Hein. Donc justement, c'est pas précisé parce que on peut faire que ce pic se produise à un moment ou à un autre et ça donne divers scénarios type A1 et puis on peut prendre une valeur moyenne. Enfin, il y a plein d'hypothèses comme ça qu'on peut faire. Mais le GIEC, en l'occurrence, a pas véritablement inventer ces scénarios. Il s'est contenté de lire la littérature des prospectivistes qui essaient d'imaginer ce que pourrait être l'avenir et de dire, ben voilà, en gros, les choses qui ont été imaginées par les gens qui travaillent sur ce sujet-là. Maintenant, tout ceci, c'est ce qu'on appelle des scénarios sans intervention. Or, la Convention de Rio a dit très clairement, dans son article 2, que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les États du monde pratiquement qui ont signé la Convention de Rio, se sont engagés à stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à une valeur qui ne soit pas dangereuse pour le réchauffement climatique. Évidemment, c'est du langage de diplomate et les travaux du GIEC ont justement comme objet de donner aux décideurs qui prendront la décision de ce qui est dangereux et de ce qui ne l'est pas, l'ensemble des éléments qui permettent d'éclairer leurs décisions. À partir de cette bonne parole, on peut penser de la conscience de plus en plus vive qu'il y a dans l'opinion publique mondiale de la réalité du réchauffement climatique et des conséquences géopolitiques graves qu'il pourrait avoir sur l'ensemble des équilibres à l'échelle du globe, on peut espérer qu'il va finalement y avoir un accord dans lequel on va aborder le problème différemment. On va pas dire on va laisser faire comme ça, mais on va au contraire s'imposer de limiter, par exemple, la concentration dans l'atmosphère à 450 particules par million, sachant que nous sommes partis avant l'ère industrielle de 250 particules par million. Ça veut dire que si vous prenez un million de molécules d'air, vous avez là-dedans 280 molécules de CO2. Et donc, on est passé de 280 avant l'ère industriel en 1800, si vous voulez, 1750, à 380 aujourd'hui. Et donc, il est sans doute très difficile de faire mieux que de stabiliser à 450, surtout qu'on continue à croître et embellir chaque jour. Donc, je pourrais imaginer d'avoir d'autres scénarios, qui ne sont pas du tout les scénarios qui sont envisagés dans le rapport stress, mais qui soient des scénarios de stabilisation des émissions, alors avec... imaginons une stabilisation à 450, à 550, à 650, 750, à 1000, mais qui soient des scénarios qui sont fondés sur une stabilisation, des scénarios finalement volontaristes dans lesquels il y aurait un accord international pour limiter effectivement les émissions de l'humanité.
Mais ces accords internationaux existent déjà. Après, il faut qu'ils soient appliqués.
Non. Il existe un tout petit pas dans cette direction, qui est constitué par le protocole de Kyoto, lequel protocole de Kyoto, comme vous le disiez, n'a pas été ratifié par les États-Unis et par l'Australie. Et alors qui a été ratifié par d'autres pays qui ne se sont engagés à rien, car ce rapport de Kyoto ne concernait que les pays développés, et par conséquent, les pays en développement ne se sont engagés à rien du tout.
Et c'est un engagement moral, il n'y a pas de sanctions prévues derrière.
Si, au terme du rapport du protocole de Kyoto, il y avait un certain nombre de sanctions qui étaient prévues, en tout cas, les gens se sont engagés formellement, et ils se sentent en général obligés de respecter les engagements internationaux qu'ils ont pris. Mais là, il faut bien se rendre compte que le protocole de Kyoto n'est à la solution du problème du réchauffement climatique ce que le premier pas d'un bébé est à la participation aux Jeux Olympiques. C'est l'expression est de mon collègue néerlandais qui préside le groupe 3. Oui, elle est très belle et très juste en ce sens que le protocole de Kyoto est parfaitement dérisoire par rapport au but à atteindre, mais il est néanmoins indispensable parce que si vous ne commencez pas à faire des choses, eh bien, vous n'avez aucune chance d'arriver jamais à prendre, à marcher et à courir.
Et pourtant, c'était présenté comme un élément, un événement phare et très important parce que on nous présentait des chiffres quand même très importants, baisse.
C'est des chiffres ridicules. L'ensemble des pays développés sont globalement engagés à diminuer leurs émissions de 5% par rapport à ce que c'était en 90. Or, si on veut effectivement limiter à quelques degrés, à un petit nombre de degrés, l'augmentation de la température moyenne, il faut absolument qu'on limite la concentration de l'atmosphère à quelque chose comme 450, 550 ppm que j'ai évoqué tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on aille au-delà. À 550 ppm, on est déjà sûr de dépasser 2 degrés. Et c'est déjà tout à fait substantiel. Or, pour atteindre des concentrations de cet ordre de grandeur, il faudrait que d'ici à 2050, on ait divisé les émissions de l'humanité par un facteur 2. Donc, l'engagement de Kyoto porté sur une période de 5 ans centré sur 2010, comparé aux émissions de 1990, donc c'était 5% sur 20 ans, on est bien loin d'une division par 2 en 50 ans.
Donc, en fait, ce que vous voulez nous faire comprendre, c'est que même si maintenant on prend des dispositions un peu plus drastiques que le petit protocole de Kyoto, on est face à un mur.
Non, on n'est pas face à un mur. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Il faut simplement prendre le problème par le corps. C'est pas une plaisanterie. Il n'est pas trop tard. On peut faire des tas de choses. On peut parfaitement isoler les maisons, chauffer l'eau chaude avec des ballons qui absorbent le rayonnement solaire sur le toit.
On peut fabriquer de l'électricité. Ces initiatives individuelles seraient déjà importantes dans le cadre international,
mais bien sûr,
mondial.
Ce que je vous ai dit tout à l'heure, en gros, c'est le tiers des consommations. Donc si déjà on supprimait le tiers des consommations comme ça, c'est déjà quelque chose de tout à fait substantiel. On peut aussi fabriquer l'électricité autrement qu'avec des combustibles fossiles. Alors bon, à l'heure actuelle, c'est ce que nous avons en France avec le nucléaire et avec l'hydraulique. Revenons à notre GIEC. Donc on a, et c'est effectivement, et c'est ça finalement un peu la raison d'être du groupe 3, son objectif, c'est de décrire ce qu'on peut faire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors souvent, on présente ces choses sous l'angle de dire « ça va coûter ». C'est vrai que ça va coûter, mais les gens qui choisissent d'acheter un 4x4 pour rouler dans Paris, où les performances du 4x4 sont peut-être pas vraiment absolument indispensables, on s'est arrangé pour lancer cette mode et ça a marché. On pourrait tout aussi bien favoriser le vélo, favoriser les transports en commun, etc. Il y a des tas de choses qu'on peut effectivement faire, mais il faut le faire. Il ne faut pas se laisser guider par l'intérêt économique à 24 heures, comme le fait la bourse, ou à l'échelle d'une ou deux, de 5 ans, comme peuvent le faire les élus politiques. Il faut se dire que c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui est en jeu, et que on a tous les outils qui sont là pour faire quelque chose. Et après tout, on pourrait tout à fait considérer que prendre des mesures qui visent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est un moteur de notre économie. Notre société de consommation s'échine à trouver des motivations pour faire fonctionner le commerce. Eh bien, vendons de la lutte contre l'effet de serre et les générations à venir s'en trouveront le mieux du monde.
Donc vous pensez en fait qu'il faut communiquer en fait. C'est pas trop une activité politique, c'est plus une activité de communication.
Absolument, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on me donne l'occasion de communiquer sur ce sujet, j'accepte de grand cœur.
Eh bien écoutez, j'espère que nos auditeurs auront entendu votre appel. Juste pour terminer cette émission, sur Internet, vous savez, on trouve de tout. Et sur le GIEC, on trouve bien sûr les personnes qui sont sensibles aux chiffres qui sont rendus publics avec les rapports. On trouve aussi sur Internet des personnes qui sont plus critiques vis-à-vis du GIEC, et notamment des scientifiques. Alors effectivement, je ne suis pas allée vérifier quels étaient leurs titres de scientifiques, qui expliquent, même si bien sûr ils ne démontent pas le GIEC morceau par morceau, ils expliquent finalement que c'est juste le GIEC une manière d'alerter les décideurs sur les conséquences possibles des émissions à effet de serre, des gaz à effet de serre, mais que sur le reste, le rapport du GIEC n'est pas réellement capable d'apporter des précisions très importantes et que les chiffres ne sont que des hypothèses bien, bien vagues.
Alors, je vais vous répondre à ça. J'ai déjà moi-même évoquer les incertitudes qui existent sur les projections. La science est dans un certain état et peut faire des projections avec une précision qui n'est pas une précision parfaite, et les barres d'erreur et les distributions de probabilité des résultats sont clairement indiquées dans les rapports du GIEC. Il n'y a rien là-dedans qu'une description de l'état des connaissances. Alors maintenant, est-ce que cette description de l'état des connaissances est véritablement fidèle? Eh bien, pour vous en donner une idée, je vais vous raconter brièvement comment se passe la préparation d'un rapport du GIEC. On commence par faire élaborer le plan de ce rapport. Et pour chacun des chapitres, on fait appel aux meilleurs spécialistes mondiaux du sujet pour rédiger le chapitre en question. Et l'ensemble de ces experts rédigent un premier rapport dans lequel ils font état de tout ce qui a été publié dans la littérature scientifique normale et font une synthèse de l'état des connaissances. S'il y a des sujets qui sont sujets à controverse, on doit rapporter les échanges de vues en donnant les arguments des uns et des autres. Et ce premier rapport est envoyé dans la nature à un certain nombre d'experts mondiaux, qui sont une liste très, très ouverte, très, très large. Les experts ont été fournis par les organisations non gouvernementales qui sont observateurs auprès du GIEC, et ça peut aller d'ONG à vocation écologique comme Greenpeace, ou au contraire d'ONG qui sont manifestement subventionnées par les pétroliers américains comme le Global Climate Coalition. Il y a donc toutes les sensibilités qui sont représentées. Ces experts commentent le premier rapport qui leur a été envoyé. Leurs commentaires sont collationnés ligne à ligne, récapitulés ligne à ligne, et on sait que sur la ligne 15 de la page 32 du chapitre 12, on a reçu 10 commentaires qui sont tac, 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 et les auteurs sont capables de dire comment ils ont traité les 10 commentaires et dans un deux, qu'ils ont traité en rédigeant une deuxième version du rapport. Cette deuxième version du rapport est renvoyée à tous les experts qui avaient commenté sur la première version et en plus renvoyée au gouvernement de tous les pays appartenant à l'IPCC, au GIEC, et tous ces pays font faire une expertise du rapport par les scientifiques de leur pays à leur convenance et envoient leurs commentaires ainsi que les experts qui avaient répondu au premier, à la première revue. Et à nouveau, on refait un collationnement ligne à ligne, et puis ceci est utilisé pour faire une version finale qui est rédigée par les auteurs.
C'est pour ça que ça prend 3 années.
C'est pour ça que ça prend 3 années, absolument. Et cette version finale, elle est approuvée par une assemblée plénière comme celle qui s'est tenue à Paris fin janvier dernier. Et au cours de cette assemblée plénière, on approuve mot à mot un sommaire pour décideurs qui fait de 10 à 20 pages et qui fait la synthèse de ce qu'on a vraiment trouvé comme résultat essentiel dans l'ensemble du rapport.
Qui ont été commentés par...
Et ce rapport-là est un rapport qui a été approuvé à l'unanimité par l'ensemble des pays participants. Et parmi ces pays, il y avait des pays qui n'étaient pas extrêmement favorables au fait qu'on limite les émissions. Il y avait bien sûr les États-Unis, il y avait des pays comme l'Arabie Saoudite, et puis il y avait également la Chine qui manifestement a fait plusieurs interventions qui allaient plutôt dans un sens de bien mettre en avant les incertitudes, etc. Enfin, des choses qui étaient... Mais on a un texte qui a été approuvé à l'unanimité par l'ensemble des États membres, et ce texte n'est pas une bouillie pour les chats diplomatiques. On peut le trouver sur le site ipcc.ch. Il y a une traduction française à laquelle j'ai largement contribué qui figure sur le site Effet de Serre. Et donc, on peut se rendre compte que ce rapport est loin d'être un rapport qui ne dit rien.
Alors, juste une précision, ça représente combien d'experts, le GIEC ?
Alors, tout dépend si on compte ceux qui ont relu ou si on compte uniquement ceux qui ont écrit. Alors, ceux qui ont écrit, c'est déjà, il y a déjà une bonne, disons, une bonne douzaine de chapitres. Sur chaque chapitre, il y a peut-être un peu une dizaine d'auteurs qui ont pu contribuer. On a déjà quelque chose qui est de l'ordre de, oui, c'est ça, une bonne centaine de personnes, rien que parmi les rédacteurs. Et puis, il y a eu tous ceux qui ont effectivement contribué à cette action. Il est aussi très intéressant de dire que les gens qui ont rédigé le 4e rapport d'évaluation sont, pour 3 sur 4, ne participaient pas à la rédaction du 3e rapport d'évaluation. Donc, on ne peut pas dire que le GIEC s'auto-reproduit, la structure s'auto-reproduit, mais les auteurs, les scientifiques, ceux qui ont tenu la plume, ne serait-ce que quand on a fait ce travail-là, on est quand même plutôt un peu épuisé, on n'a pas envie de recommencer à travailler pendant 5 ans, donc assez naturellement, il n'y a guère qu'un quart d'entre eux qui ont piqué au jeu entre le 3e et le 4e rapport, et donc on ne peut pas dire que ce soit toujours les mêmes personnes qui racontent la même chose.
Eh bien, merci Michel Petit de nous avoir donné toutes ces précisions. Maintenant, nous connaissons mieux le GIEC, nous connaissons mieux également le constat qui a été fait avec ce premier groupe d'experts. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied parce qu'effectivement, je voulais parler du site internet effetdeserre.gouv.fr et de l'ipcc.ch. Vous l'avez fait à ma place, c'est très bien. Donc, je vais redonner tout simplement le lien. Donc, si, chers auditeurs, vous voulez en savoir plus hein, sur ce sujet qui est donc passionnant, n'hésitez pas à vous connecter au www.effet-de-serre.gouv.fr et puis également le site de l'IPCC. IPCC, on peut peut-être redire ce que ça signifie ?
Intergovernmental Panel on Climate Change.
Donc, vous pouvez donc vous connecter au www.ipcc.fr. www.radiocristal.ch. Eh bien, merci Michel Petit de nous avoir donné toutes ces explications. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes donc correspondant à l'Académie des sciences et que vous étiez
président du comité environnement.
Et voilà, c'est ce que je voulais préciser. Effectivement, vous présidez donc le comité de l'environnement de l'Académie des sciences depuis 2006. Eh bien, merci beaucoup et puis j'espère une prochaine fois pour parler peut-être de nouveau de l'effet de serre. Merci beaucoup. Au revoir.